Avec votre permission, on va commencer. Ça va faire venir les absents, puis les trois qui sont en train de préparer leur cancer en fumant leur cigarette sur le perron de l'espace Pendès France. Donc bonsoir. Merci à vous d'être là. Donc avant de présenter notre intervenante de ce soir en la remerciant d'être là, je voulais simplement vous redire ce que j'ai dit à certains et à certaines ces dernières soirées. Avec Yves Saint-Tiempo, donc on a monté ce forum après celui sur l'énergie l'an dernier. Donc sachez que tout ce qui se dit dans nos salles, celle-là comme celle de la mairie, est enregistré et qu'en avril 2013, on sortira un dossier d'une douzaine de pages dans la revue L'Actualité Poitou-Charentes, qui est également largement téléchargeable en ligne. Et pour vous donner une information, la revue L'Actualité, depuis janvier, a reçu 700 000 visites. Ce qui prouve que l'information régionalisée avec une vision un peu plus globale comme celle que ce soir on va avoir intéresse tout le monde. Voilà. Et sur les 700 000, juste pour vous dire, 9% sont hors Europe. Donc on appelle ça l'étranger, voilà, et beaucoup en Amérique du Sud. Voilà, merci d'être là. Donc ça veut dire que vos contributions, elles participent aussi de ce travail de diffusion, donc L'Actualité, en avril prochain. D'ailleurs, le numéro sur l'eau était sorti mercredi, donc on annonce le programme et on parle des problèmes et des questions d'eau. Donc vous pouvez, à loisir, vous en inspirer. Donc tout ce que vous direz ce soir ne sera pas retenu contre vous, ne vous inquiétez pas, sera retenu comme une contribution. Vos contributions valent autant que celles de la tribune et réciproquement. Voilà, donc Bernadette Devancé, merci d'être là ce soir parmi nous. Tout à l'heure, quand elle arrivait dans la salle, elle s'excusait d'être sociologue, alors que nous, on adore les sociologues dans cette maison. Depuis 10 ans, on a toujours pensé que la présence des sciences de l'homme et de la société était indispensable pour comprendre notre monde et que tout ce qui explique le monde matériel, corpusculaire, micro ou macro, l'astronomie, la chimie, la physique, elle est toujours dans cette maison. Hein, les origines de l'homme, vous les voyez. Voilà. Donc, par contre, il nous faut, et c'est indispensable, l'analyse des compétences des sciences de l'homme et de la société. Donc, les sociologues, les géographes, les historiens des sciences, non seulement sont les bienvenus, mais sont là tout le temps. Et nous avons un biologiste moléculaire, Yves Saint-Tiempo, qui s'est soigné et il s'est mis lui aussi aux sciences de l'homme et de la société. Donc la parole citoyenne que vous représentez, que vous soyez connaisseur ou pas, elle a autant d'importance et je pense que Bernadette est sur cette longueur d'onde. Donc ce que vous direz viendra compléter ce qu'une experte peut dire. Sociologue à Paris 5, c'est une chose. Alors par contre, il y a des choses qui m'ont étonné dans votre pédigré. C'est membre de l'Académie de l'eau. Il faudra que vous nous en disiez un mot quand même, parce que ça nous intéresse pour la suite des événements. Et puis l'Association pour la prévention des catastrophes naturelles. Donc on parlait en aparté de la culture des inondations à Poitiers, qui est très très particulière. Et puis d'un mot, vous rappelez, alors je ne sais pas si ça viendra dans la conversation, parce que ce n'est peut-être pas tout à fait la thématique. Sachez que l'Espace Mendès France a tenté, voici 2 ans, de participer à la création d'une université populaire du littoral après Xintia. Donc c'est une expérience, je la cite en 2 mots puis je vous passe la parole pour montrer un peu comment sont les choses. Et donc cette expérience d'université populaire vient d'avorter. Nous avons tenté de monter des forums pour permettre aux 3 acteurs que sont les citoyens, les collectivités territoriales et l'État de se confronter à la connaissance scientifique. Et en fait ça vient d'avorter parce que d'abord nous étions au Poitevin, alors que je pense que on est citoyen du monde, donc de notre région. Et donc les Poitevins n'étaient pas forcément les bienvenus dans une discussion sur le littoral. Et en termes de méthode, cette université populaire s'est retrouvée dans un entre-soi où les gens ont discuté entre eux sans faire venir de personnalité ou de regard extérieur. Et donc les choses qui manquaient donc de biodiversité en termes de regard se sont éteintes d'elles-mêmes. Alors que je pense que après Xintia, il y a énormément de leçons à tirer, en particulier sur les dialogues entre les institutions et le reste. Voilà, donc Bernadette va vous proposer une petite expérience ce soir en plus. Hein, vous avez des questions qui vous ont été proposées. Donc je vous laisse la parole. Merci d'être là, c'est un plaisir. Et puis bonne soirée à toutes et à tous.
Non, c'est pour l'enregistrement.
C'est pour l'enregistrement.
Vous avez la possibilité d'avancer ou de reculer avec ça. Et ça fait pointeur aussi.
D'accord. Hein? Parfait. Voilà. Parfait. Bon. Écoutez, je vous remercie de cette présentation très gentille et très sympathique. Et puis, je vais compléter ma présentation en vous expliquant ce qu'est l'Académie de l'eau. Donc, l'Académie de l'eau, c'est une excroissance de l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui a été fondée par Pierre-Frédéric Tenière-Buchaud au moment où il était directeur de l'Agence de l'eau pour essayer d'avoir un autre regard que le regard des marchands de tuyaux que sont bien souvent les gens des agences. Et donc, il a créé ce petit groupe qui est une sorte d'association, qui travaille sous forme d'association, avec un président qui était François Valiron, qui est donc celui qui avait créé les agences de l'eau. Bon, donc, nous avons créé toutes sortes de groupes et on a fait beaucoup d'études. Donc, je vais vous en présenter 3 ou 4 que j'ai faites dans le cadre de l'Académie de l'eau. Je suis également... Personnellement, je craignais que vous l'ayez repéré. Donc, je suis un enfant d'Harun Taziev, d'une certaine façon. Ce qui fait que, ayant découvert les risques naturels à la Soufrière de Guadeloupe dans les années 76, ce qui n'est pas récent, eh bien, je me suis consacrée ensuite à des études de sociologie, des études de crise et la sociologie des organisations sur comment fonctionne un pays qui se retrouve confronté à des problèmes de ce genre. Ce qui fait que tous ces problèmes d'inondation sont des problèmes sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé pour le ministère de l'Environnement l'année dernière sur l'affaire de Xynthia, bien sûr, avec un thème particulier, c'était comment constituer une mémoire utile. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire utile? Comment peut-on constituer une mémoire utile après un problème comme celui de Xynthia? Et effectivement, ça fait partie de ces... Donc j'ai une double casquette, effectivement. Je travaille très souvent pour le ministère de l'Environnement sur des contrats de recherche, recherche en risque naturel. Et puis, en tant que membre actif de l'Académie de l'eau, eh bien, je fais de la recherche. Je pense que vous pourriez trouver sur le site de l'Académie de l'eau le document de la mémoire utile de Xynthia, parce qu'il a été mis sur leur site. Donc voilà. Donc vous voyez là les petites questions que je vous ai mises là. Elles ont pour objectif de vous faire entrer un petit peu dans un processus différent de celui que l'on a d'habitude, parce que ce qui me paraît le plus important, c'est que vous vous sentiez impliqué dans les problèmes de l'eau, dans la question de l'eau. On ne va pas parler de problème, mais plutôt dans la question de l'eau. Et donc, dès que je vais avoir un petit temps de fatigue, je demanderai à quelqu'un de nous raconter ses souvenirs sur l'eau, c'est la façon dont ils ont été marqués par certains messages et au fond, quelles sont les possibilités de faire circuler vraiment de l'information sur l'eau, ce qui n'est pas toujours très simple. Ah, là j'ai éteint. Bon, c'est quoi, à droite ou à gauche, en haut?
À droite pour avancer.
Ah ben alors j'ai fait le... Voilà. Donc, je me réclame d'une science... d'une discipline plutôt qui n'existe à peu près pas en France, qui est extrêmement rare, qui s'appelle la psychologie environnementale. La psychologie environnementale est une sous-branche de la psychologie sociale, Moscovici et autres personnages de ce genre-là. Et en fait, dans les grands principes de psychologie environnementale, nous travaillons avec l'idée que l'environnement est toujours vécu comme une totalité. Vous êtes indissociable de votre environnement. Vous et votre environnement, vous êtes la même chose. Je suis arrivée ici avec un costume. Je suis un peu dans un jeu de rôle, mais je me suis créé moi-même un environnement qui est un environnement d'une dame avec un air sérieux qui vient faire une conférence. Voilà. Donc, je ne suis pas tout le temps dans cette même perspective. La semaine prochaine, on va repartir en vacances de la Toussaint grâce à M. Hollande 15 jours. Et je me retrouverai à ce moment-là dans le style grand-mère armée de 5 ou 6 petits-enfants turbulents. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire, votre environnement vous définit. La seconde chose tellement importante, c'est que les relations de l'homme et de son environnement sont toujours dynamiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez une action, vous avez directement en retour une réaction. Il ne faut pas croire que lorsque vous avez agi sur l'environnement, lorsque vous avez créé des bassines, il ne se passera rien tout autour. Vous allez avoir forcément des réactions de l'environnement. Et une des images les plus intéressantes sur cette façon d'interaction entre l'individu et l'environnement, ce sont ces grands plateaux où on mettait des secrétaires en train de travailler, et chacune arrive avec sa plante. Il s'agit qu'elle transforme son bureau, donc elle veut agir sur son environnement, elle transforme son environnement en quelque chose qui lui est déjà un petit peu plus favorable. Avec sa plante, elle a créé, et puis les deux photos de son mari, sa grand-mère, je ne sais pas quoi, elle crée un environnement personnel. Bien entendu, cet environnement réagit et vous allez avoir d'autres personnes qui vont arriver également avec leurs plantes, et vous allez avoir la course aux plantes. C'est extrêmement intéressant à étudier d'un point de vue... Donc les relations de l'homme et de son environnement sont toujours dynamiques. L'influence de l'environnement sur l'individu dépend de sa perception et de la complexité environnementale. C'est-à-dire que vous avez des environnements extrêmement simples dans lesquels vous allez pouvoir vous promener tranquillement. Et puis vous avez des environnements tels que celui que vous nous avez décrit tout à l'heure. Comment une association, comment un membre d'une association est-il perçu dans un milieu qui est extrêmement complexe avec des intérêts différents? Et donc, acquérir une bonne perception de cet environnement tel qu'il a été analysé avec toutes les complexités que cela représente, eh bien, ça va vous donner la possibilité de pouvoir agir d'une façon plus intéressante. Et un autre de ces principes, l'environnement est appréhendé par des images mentales. Ces images influencent l'utilisation et l'action sur l'espace. C'est ce que nous appelons des représentations mentales. Je vous en parlerai presque toute la soirée, parce qu'il ne faut pas croire que nous avons un regard objectif sur les choses. Nous reconstruisons systématiquement la réalité pour lui donner du sens, et un sens qui nous intéresse nous-mêmes. Donc là, c'est un des problèmes les plus importants de la construction des représentations sur l'eau. Comment est-ce que nous nous approprions l'eau? Et enfin, tout environnement a un caractère symbolique qui dépend du sens que l'homme attribue à ces éléments. C'est un peu la même chose. Donc ce soir, je voulais vous présenter deux thématiques. Première thématique, la dimension culturelle de l'eau. Et je voudrais justement vous la présenter à partir d'une très grosse étude que nous avons faite dans le cadre de l'Agence de l'eau et de l'Académie de l'eau auprès de 4 villes en France et 6 villes répandues dans le monde entier pour savoir comment se construisait la représentation de l'eau. Donc je vous en vais vous en parler. Et l'autre dimension, c'est la dimension eau et territoire. Et là, effectivement, on a eu énormément, on a fait beaucoup d'études, tant sur la, en essayant de mettre au point une méthodologie intégrée eau et territoire, ce qui est la chose la plus difficile qui soit, puisque, comme vous le savez, les administrations, les services, ils sont territoire et ils ne sont pas eau. C'est arrivé à être extrêmement comique, puisque lorsque l'on a créé la ville neuve d'Évry, on a fait de l'urbanisme et on avait oublié qu'il fallait aussi mettre de l'eau. Et donc on a été obligé d'aller chercher cette eau très loin. On n'avait absolument pas pensé que l'endroit où on mettait cette ville, la première des choses à faire, c'était de savoir s'il y avait de l'eau. Et là, on est évidemment dans une démarche qui paraît aberrante, alors que tous nos ancêtres, les Gaulois et autres, Ligures et autres, la première chose qu'ils ont faite, c'est s'installer auprès de l'eau. Parce que si vous regardez la carte hydrologique de France, c'est sur les points d'eau que se sont installées les grandes capitales. Nous avons Lyon sur le Rhône, Paris sur la Seine, Nantes, en fait, etc. Donc la recherche de l'eau paraissait évidente. Or, le jour où on veut créer des villes artificielles, on oublie à quel point ce problème de l'eau est un problème essentiel, et ça leur a coûté très cher. Donc deux thématiques pour ce soir. Je vais essayer d'être à la fois brève et puis un petit peu intéressante. Donc, au point de vue culturel, dès les plus anciennes civilisations, l'eau est sacrée parce qu'elle est perçue comme la source même de la vie. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas aller plus loin. Et ce que l'on va dire, parce que nous avons écrit un livre de référence qui s'appelle « L'esprit de l'eau » pour, effectivement, le Forum mondial de l'eau de Q Kyoto, donc il y a déjà un certain nombre d'années. Et on avait essayé de faire un peu un ensemble de références sur la façon dont toutes les cultures se sont fondées d'abord sur une vision de l'eau. Bon. En fait, aujourd'hui, on est, et vous l'avez dit un petit peu au cours de ce premier exercice qu'on a eu cet après-midi, on est dans des stéréotypes extrêmement négatifs. On va nous dire la relation à l'eau est très dégradée. Tout le monde le dit, tout le monde le pense. Le sens du sacré a disparu. Les jeunes vivent une abondance de l'eau sans limite. D'ailleurs, les parents essayent de les faire sortir de leur douche manu militari parce qu'il n'y a plus moyen de les sortir de là. Il n'y a plus de culture de l'eau, comme s'il y avait toujours eu une vraie culture de l'eau. Et la pollution quotidienne détruit la ressource en eau. Quand vous faites des enquêtes, eh bien, et que vous mettez les gens sur le sujet de l'eau, très souvent, ils vont arriver à vous sortir ce genre de stéréotypes. Ils ont de la véracité, ces stéréotypes, mais ce n'est peut-être pas, ce n'est pas la totalité des choses, parce que, certes, nous avons, nous ne croyons plus aux dragons qui sont installés dans les sources et les rivières. Ceci, ce sont des images, et vous voyez la tarasque, vous la retrouvez dessinée au pont de Tarascon, vous avez la petite sirène, vous avez les dragons sans fin, à double tête. Tous ces personnages sont des personnages que l'on a cru pendant des siècles comme habitant les eaux. Lorsque vous allez au Japon, le Japon a des petits monstres qui s'appellent les kappas, qui ont pour objectif de prendre les enfants et de les noyer. Donc on dit aux enfants, faites attention, ne vous approchez pas de l'eau. Voilà. Bien entendu, nous n'y croyons plus. Et cependant, voilà une image extrêmement intéressante. C'est la source de sa main, c'est dans le Calvados, c'est dans le pays d'Auge. Je connais les gens auxquels cet arbre appartient. Et la photo a été prise il y a 3 ans. Vous voyez que cette source est une source qui reste miraculeuse. Elle guérit, en principe, elle guérit d'allergies. Et vous voyez sur l'arbre, j'espère que vous le voyez un petit peu de loin, vous voyez le nombre de vêtements qui ont été accrochés là et qui représentent les dons que les gens font à la source de sa main pour les avoir guéris. Donc, on ne croit plus aux petits monstres dans les sources, mais on croit encore à ça. Le sacré a-t-il vraiment disparu ou non? La maison de retraite qui est toute proche de ce... d'ici, c'est à côté de Lisieux. La maison de retraite de Lisieux vient la nuit avec des grands bacs et elle rapporte de l'eau. Elle vient de nuit hein, quand même parce qu'elle ne voudrait pas se faire pincer en train de faire ça. Et elle distribue de l'eau de la source de sa main aux gens qui leur demandent autour d'eux. Alors le sacré, pas le sacré, c'est évidemment un petit peu difficile. Et nous avons autre chose d'extrêmement intéressant qui est un phénomène merveilleux qui s'appelle le mascaré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mascaré. Le mascaré est quelque chose d'extrêmement dangereux dans les années, au 19e et au début du 20e. On a beaucoup lutté contre les mascarés, mais le mascaré aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? Vous avez vu les progrès qu'on a fait sur les planches de surf. On est devenus vraiment des gens admirables sur les planches de surf. Et on s'aperçoit que toute une génération, attendez que je vous fasse peur encore avec le mascaré, voilà, ça, c'est une ville qui va être frappée par le mascaré. Vous savez donc ce que c'est? C'est cette vague qui remonte, qui va en sens, qui remonte les rivières. Voilà. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, lorsque on sait que sur, c'est plutôt sur la Dordogne ou sur la Gironde, c'est sur la Gironde. Pardon? Dordogne aussi, hein? Oui, parce que moi, l'exemple que je connais le mieux, c'est celui de la Dordogne. Alors, quand on sait qu'il va y avoir un mascaré, eh bien, les gens qui s'intéressent au surf vont d'abord se téléphoner. Ils vont téléphoner à la météo. Ils vont rassembler leurs connaissances. Ce qui est effectivement, c'est un point de vue sociologique, quelque chose de très intéressant. On repart ensemble faire quelque chose. On crée un groupe qui va d'abord acquérir de la connaissance. Ensuite, ce groupe va avoir tout un rituel. Ils arrivent dans des petits villages, ils installent leur tente ou leur mobilhome, ils fourbissent leurs armes. On est absolument dans de la chevalerie. Ils s'installent avec leur grande combinaison, parce qu'il ne fait pas toujours très chaud. Ayant installé leur combinaison, ils frottent leurs planches pour qu'elles glissent au mieux. Ils prennent un certain nombre de choses comme ça, ce qui nous donne le lendemain matin, au départ du mascaré, cette action collective. Et c'est d'une beauté fabuleuse. Que font les gens? Est-ce que, ayant constitué, ayant créé un rituel, élaboré un rituel, ayant élaboré des connaissances, ils sont dans un mouvement, dans une action collective, dans laquelle la solidarité, l'amitié, la joie, la beauté de l'eau, le plaisir va s'affirmer complètement. Et effectivement, le soir, ils vont s'attabler dans les petits bistrots qui sont très bien installés sur ces bords de rivière, et ils vont créer du lien social. Donc on est absolument dans la création d'une nouvelle culture de l'eau, d'une culture de l'eau extrêmement positive, parce qu'elle crée d'abord de la connaissance et qu'elle crée du lien social. Des connaissances partagées, des rituels exigeants, des célébrations collectives. Et au cours de des célébrations collectives, les gens se racontent l'histoire du mascaré de l'année dernière, ce qui était quand même le plus beau des mascarés, celui moi auquel j'ai participé, etc. Et donc on est vraiment dans de la création de la mémoire, de la création de culture de l'eau, qui est une culture nouvelle qui peut faire rire les gens qui n'aiment pas ce genre d'activité. Mais au Japon, il y a eu l'année dernière une très grosse émission dans laquelle on montrait ce qu'était le mascaré au Japon. Et elle était très violente. Il était un, et peut-être. Mais les gens étaient aussi dans cet état de béatitude que l'on peut voir sur cette image, absolument heureux, en famille et faisant ça. Et donc, on ne peut pas, on n'est pas obligé d'être aussi négatif que ça, de relayer ces stéréotypes négatifs. Et peut-être qu'on peut essayer de voir comment cette eau est aussi un fondateur des paysages, c'est un élément fondateur des paysages. Et en voilà un exemple. C'est donc grâce toujours à l'Académie de l'eau, puisque nous avons beaucoup de correspondants japonais par l'Académie. Voilà une station d'épuration avec des bassins qui ont été créés par une société. Ils continuent à nous écrire d'ailleurs quand ils sont venus nous faire des présentations là-dessus. On a recherché dans la mémoire locale quelle était la couleur des pierres, quel était le bruit de l'eau qu'ils aimaient le plus, qui avait toujours existé. Et on s'est efforcé de recréer une ambiance d'eau qui émanait de la collectivité. Et vous voyez comme les pierres sont belles, elles sont avec des assemblages et des agencements tout à fait particuliers. Et donc c'est un aménagement. Donc la société, c'est Hydroscape. Si ça vous amuse, vous pouvez vous mettre sur leur site. Vous verrez les choses magnifiques qu'ils font, parce qu'ils travaillent sur des tissages qui vont représenter l'eau. Ils font énormément de très très, pardon, je vais à l'envers, de très très belles choses. Et nous avons cet exemple de Bordeaux, qui est un exemple que nous n'aurions même pas cru possible il y a 10 ans, avec cette façon dont que l'on avait de ne pas regarder la rivière parce qu'elle était vraiment trop vilaine. J'avais interviewé des gens qui me disaient, quand je passe sur le pont Saint-Jean, je détourne les yeux parce que je ne veux pas voir cette eau. Elle est vraiment trop moche. Et maintenant, vous avez des gens, vous avez donc eu cette réappropriation des quais, et la chose la plus belle quand même, qui est ceci, le miroir d'eau. Alors pourquoi dit-on vraiment que nous sommes complètement dans une société qui n'a plus la culture de l'eau? Si vous êtes passé à Bordeaux récemment, vous avez vu la foule qui patauge danser sur le miroir d'eau, à quel point ça met en valeur la ville et à quel point il y a un bonheur. Il y a un véritablement quelque chose de très intéressant qui se passe avec cette eau. Ça nous amène à dire qu'effectivement, d'une façon générale, nous avons tous des eaux de référence. Ceci, ce sont les eaux acceptées. Et ceci, les eaux refusées. Les eaux acceptées, elles sont liées à l'environnement et à un environnement complet. Ce sont des paysages. Vous avez en bas quelque chose qui vient de, du marais Poitevin. Vous avez le pêcheur à la truite. Vous avez les grenouilles sur leurs petites... les lacs de montagne, les petites promenades en barque, l'eau sous toutes ses formes. Quelle est la personne qui veut nous dire maintenant quel est son très beau souvenir d'eau qui a été frappé par un très beau souvenir de l'eau? Quel souvenir vous avez de l'eau? Vous voulez en parler?
Souvenir, je vais simplement lire ce que j'ai écrit. Hein.
Bah, non, vous parlez.
Micro, parce que je vais prendre l'autre.
Comme ça, je ne crache pas dans les
deux. Non, je vais garder l'autre. Allez.
Alors voilà, je suis née à 10 mètres d'un ruisseau et à 20 mètres d'un lavoir. Ma mère a élevé 4 enfants sans eau courante. L'eau était à la fois abondante, puisqu'il y avait le ruisseau, mais pénible à capter pour ma mère, qui l'a rapportée avec des seaux. D'où mon habitude d'économiser l'eau et le besoin de toucher l'eau. J'ai toujours les mains dans l'eau. Oui, c'était idyllique en plus. C'était un paysage avec des peupliers, c'était en Charente. Et c'était un ancien hôtel de gare complètement isolé. Donc, c'était merveilleux. C'était presque un petit paradis.
Voilà. Donc là, on a une relation personnelle à l'eau qui fait que cette personne va passer sa vie à vouloir entendre parler de l'eau.
Oui, et peut-être ça induit ma vocation pour être professeure de sciences. Et j'ai enseigné la création des nappes phréatiques aux élèves. Voilà. Et j'aimais beaucoup le programme de quatrième là-dessus. Je pense que ça a complètement changé.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler d'un de ses souvenirs personnels de l'eau? Allez-y.
C'est l'inverse. J'ai lu des bouquins, mais alors je ne sais plus lesquels, que mon grand-père avait dû me donner sur des gens qui marchaient dans le Sahara. Et là, il n'y avait pas d'eau. Et pour moi, l'eau, c'est... Alors c'est ça, bien sûr, en référence acceptée, mais en sachant que, par ailleurs, il y a des gens qui n'en ont pas, qui meurent de ça. Alors, je ne sais même plus quels sont les bouquins, je ne sais plus, mais c'est très, très, très vieux. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose?
Oui, j'ai livré tout à l'heure, en privé, un souvenir. C'est la découverte de la mer à 7 ans. Et depuis, je fais une relation avec autre chose. Je vivais aussi souvent à la campagne où on allait puiser l'eau dans un puits. Et bon, c'était rituel. Et très jeune, j'ai plongé le seau pour aller chercher l'eau.
Toute notre génération l'a fait. Hein. Voilà, je suis obligée de vous dire
oui,
que
non, mais, et c'est cet, l'eau courante cet écart entre, pas, hein. entre la mer, la découverte de la mer... Oui. Avec ce que je connaissais avant de l'eau qui venait du puits.
Et là, au fond, vous avez encore... Ah, voilà, on va entendre un autre monsieur.
Qui ?
Là-bas, au bout.
Merci. Alors moi, je parlerai de deux choses. La première chose, c'est que on est fait de 75% d'eau. Et moi, pour moi, c'est l'eau intérieure, en fait, plutôt que l'eau de la visualisation. Et parce que je pense que ce qui nous émet le plus, même si c'est des fois inconscient, c'est ce qui nous concerne, c'est de quoi on est fait. Et je me dirais, dans un état d'inconscience, ça serait de parler de ma naissance, puisque quand on est tout petit, fœtus, c'est constitué de 100% d'eau, et je pense que c'est une des plus belles preuves, je dirais, de ce qu'on est fait, et puis qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux, parce que ça nous... C'est ce qui déterminera en tout cas notre santé. Comme moi je dis souvent en conférence, la vie est une question d'hydratation, la mort c'est la déshydratation. Donc c'est vrai que pour moi ça me paraît très important, mais plus le côté intérieur que tout ce qu'il y a autour de nous, quoi. Plus ce qui nous concerne réellement, notre corps.
C'est ce qu'on appelle le syndrome océanique, hein, c'est ça. C'est parce que nous avons tous été dans le sein de notre mère, nous étions dans l'eau. Et donc, on appelle ça comme ça. C'est très intéressant. On continue ?
Ah, bah, je peux vous dire un mot. Ah, oui, ah, parce que alors, moi, je suis né au bord de la mer et j'ai vécu très longtemps au bord de la mer. Et donc, pour moi, le souvenir de l'eau, c'est la mer, et immergé dans l'eau, et la peur de l'eau, au départ, jusqu'au jour où j'ai pu aller sous l'eau. Et quand j'ai commencé à arpenter les fonds, à ce moment-là, j'ai apprécié, alors que je n'ai jamais aimé nager en surface. C'est bizarre. Hein.
Ah, c'est très intéressant aussi. Parce que
alors, c'est peut-être que ça rejoint votre remarque. C'est peut-être que je regrette mon état de fœtus.
Non, mais j'avais lu un monsieur dans une conférence comme ça qui disait, bien, pour moi, quand je suis sous l'eau, je pense que je rencontre Dieu. Alors, il avait un sentiment complètement métaphysique sur la plongée sous-marine.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai commencé à naviguer à l'âge de 15 ans, c'est de voir une mer calme, aussi calme que ça, en pleine mer, et puis deux jours après, avoir une tempête défoncer les portes du bateau.
Ouais.
C'est l'impression de calme et de la puissance, de la force de l'eau après.
Alors, on va continuer. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, parce que on va essayer de continuer. Donc, les eaux refusées. Et donc, je vais vous présenter cette enquête internationale dont je vous parlais. On a travaillé donc sur 4 villes françaises, Paris, Limoges, Bordeaux et Rennes, 6 villes étrangères, Munich, Madrid, Osaka, Ouagadougou, Brasilia, Jakarta. L'intérêt de ce choix des villes était sur la façon dont ces villes ont des contextes par rapport à l'eau extraordinairement contrastés, puisque effectivement, à Ouagadougou, il fait plutôt sec. Munich à ces lizards, je ne sais pas si vous connaissez la relation à l'eau en Allemagne à Munich, elle est absolument extraordinaire. Ils croient à leur fleuve comme à leur rivière, je crois que c'est une rivière, ils y croient comme à quelque chose d'absolument extraordinaire. Par contre, à Madrid, les remarques qu'on nous a fait, c'était de nous dire, bon, ben vous, bien sûr, vous avez la Seine à Paris, nous, à Madrid, on a un filet d'eau, on n'en parle même pas, c'est épouvantable. Nous sommes vraiment complexés par rapport à Paris à cause de ça. J'avais entendu à Londres, lors d'autres travaux, des personnes nous dire, mais non, on ne peut pas se perdre dans Londres, on sait toujours où est la Tamise. Donc voilà, c'est à la fois ce repère. Donc on a fait un grand questionnaire, on est parti et on a étudié les représentations. Donc je vous rappelle ce que c'est. C'est donc cette action est le produit d'une activité mentale par laquelle le sujet reconstruit la réalité à laquelle il est confronté pour lui donner du sens. Voilà. Et je vais vous présenter les résultats de ces grandes enquêtes. Donc là, on a mis ensemble tous les questionnaires que l'on a. Donc c'est une vision un petit peu universelle. À Jakarta, vous savez qu'il y a beaucoup d'eau, mais les gens n'ont aucun sens de l'hygiène. Et donc, ils vont avoir le puits d'eau, parce que l'eau est presque à portée de la main, le puits d'eau d'un côté et pour les eaux sales à côté, sans se rendre compte qu'il peut y avoir des mélanges entre les uns et les autres. Et les gens n'ont pas du tout ont une culture de l'eau extraordinairement différente. Donc, le noyau de la représentation, ce qui est dit toujours, c'est une tête bicéphale, hein, si vous voulez, deux attitudes, l'eau symbolique et l'eau ressource énergétique et domestique. Donc, on ne parle plus du tout de la même chose, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce sont des choses qui sont très différentes. Ces deux façons de faire, ces deux façons de penser se retrouvent dans des valeurs et dans des droits. C'est-à-dire que, où que vous soyez, les valeurs qui correspondent à cette eau symbolique, ça va être l'éthique, la qualité de la vie, et l'eau, c'est la vie. On ne peut pas avoir quelqu'un qui parle de l'eau sans dire l'eau, c'est la vie. Et ensuite, qualité de la vie, éthique, sont les valeurs qui correspondent à cette eau symbolique Et alors, mon transparent est très mal fait, puisque, bien entendu, ça correspond au point de vue des droits à maintenance et qualité de l'eau. Alors que si on parle effectivement des valeurs de l'eau, ressources énergétiques et domestiques, eh bien, on va demander la durabilité de la ressource. On est dans de l'hédonisme, on est dans de l'esthétique. Et les droits, c'est l'accès à l'eau d'abord, la disponibilité de l'eau et un prix abordable. Ensuite, on demande aux gens quels sont leurs diagnostics par rapport à l'eau. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'eau actuelle? Et ils vont nous faire un diagnostic. Nous allons trouver trois sortes de diagnostics selon les gens. Un diagnostic scientifique qui va nous dire, mais attendez, qu'est-ce que vous nous racontez? Maintenant, sur l'eau, on fait énormément d'améliorations et de surveillance. On avait un Japonais qui nous disait, mais moi, tous les matins, je descends près de mon petit ruisseau, je vais voir mes poissons et je les compte parce que ça, c'est extrêmement important pour tout le monde, parce que ce sont des poissons qui ne vivent qu'en fonction de la qualité de l'eau. Donc, il faisait ça tout seul, dans son coin. Donc, mais il était scientifique. Donc, amélioration, surveillance. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les diagnostics de sens commun. Et là, ce diagnostic de sens commun, il est évidemment extrêmement dans les stéréotypes que l'on a évoqués tout à l'heure. Mais en même temps, il est très vivant, très réaliste. L'évidence des problèmes. J'ai appris à nager dans la Garonne à Toulouse. Je ne sais pas si vous mettriez vos enfants à nager aujourd'hui dans la Garonne à Toulouse. Et j'avais des palmes. On nageait avec des palmes aussi dans la Garonne à Toulouse au moment de mon enfance. La visibilité de la dégradation qui est sérieuse et qui se voit sur les berges surtout. On voit des berges avec très encombrées. Gravité des problèmes. Et irréversibilité des atteintes. Ça, tout cela, ça correspond à cette évidence des problèmes. On ne peut pas passer à côté de l'eau sans se rendre compte de cette dégradation. Vous avez ensuite les risques sanitaires alarmants, l'urgence d'avenir et la relativité des moyens de contrôle, qu'on le veuille ou non. Donc, les diagnostics de nos différentes personnes sont extrêmement tristes et attristées. Nos Japonais toujours, puisque moi j'ai fait particulièrement l'étude d'Osaka. Ils disaient, mais c'est très simple, j'étais sur le bord de la mer du Japon, et il y avait une masse de déchets qui se promenaient à la surface de l'eau. Pour nous, c'est absolument insupportable. On ne peut pas admettre des choses pareilles. Alors évidemment, c'était les méchants chinois qui font évidemment n'importe quoi. Hein. Ça, c'était clair que c'était pas... voilà. Donc, on a un troisième type de diagnostic. C'est ceux qui ont une totale absence de prise de conscience du problème. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce qu'ils nous bassinent avec leur eau? Il y a de l'eau au robinet, on a fait beaucoup de progrès, tout va bien. Et maintenant, on ne va pas continuer à s'ennuyer avec ça. Alors maintenant, on arrive aux causes qui sont données. Alors, les causes, c'est les conditions naturelles. Bien sûr, avec le changement climatique, et on a vite fait de dire... on n'a plus la même hydrologie que l'on avait avant. C'est surtout la démographie qui est devenue tellement pesante. C'est forcément l'urbanisation et le fait qu'on vit dans une logique économique avec rentabilité. Ne reparlons pas du maïs parce que l'année dernière, nous faisions partie, enfin au mois de juillet, juin, on faisait partie d'un groupe de prospectives monté par l'Académie de l'eau pour étudier les prospectives. Et j'ai trouvé une chose absolument extraordinaire sur le maïs dans le sud-ouest de la France. Les gens faisaient de la prospective en disant on ne peut pas penser sans le maïs. Voilà. Donc là, vous m'avez beaucoup rassuré en disant qu'il y avait peut-être une petite chance que cette culture du maïs Voilà. Donc on fait de la prospective en ayant la possibilité de changer la culture rentable. Voilà. C'était ça vraiment ce que ça voulait dire. Donc on a du côté de nos scientifiques, le diagnostic scientifique, qui eux reportent la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui sur les usagers, alors qu'ils font beaucoup plus de surveillance, qu'ils font beaucoup plus attention et qu'on a fait des progrès scientifiques considérables, eh bien les usagers continuent à nous mettre les cuisinières dans la rivière, acheter des papiers partout, et heureusement qu'on a maintenant la journée de l'environnement où les enfants vont ramasser, nettoyer, parce que vraiment pour les scientifiques, donc on a cette opposition, si vous voulez, si on arrivait à trouver des modus vivendi entre les scientifiques et les usagers, on serait peut-être un petit peu moins stressé, ça pourrait être. Et puis on a toujours nos gens qui sont loin de la prise de conscience du changement actuel et qui, eux, considèrent que ça n'a pas grand intérêt. Quelles sont, une fois qu'on a vu les causes, quelles vont être les conséquences ? On continue à travailler sur notre même échantillon et avec nos trois personnes. Les conséquences, c'est effectivement la difficulté d'une attribution de responsabilité. Pour cette responsabilité, pour les usagers, elle se traduit en d'abord un rapport modifié vis-à-vis de l'environnement. Vous-même, vous avez hoché la tête quand je vous ai conseillé d'aller apprendre à nager dans la Garonne. Donc l'environnement est bien modifié. Vous n'avez absolument pas le rapport que nous avions eu. On faisait du ski dans les Pyrénées et on s'arrêtait pour boire dans tous les petits ruisseaux. On buvait comme les Gédéons, dans le creux de la main, les eaux qui descendaient, qui ruisselaient de la montagne. Ça ne nous posait absolument pas de problème. Donc il est évident que là, aujourd'hui, ce sont des choses qu'on ne ferait peut-être plus. Et c'est surtout en fonction... toutes ces conséquences sont perçues comme des risques. Alors il y a des risques immédiats, il y a des risques potentiels et il y a des risques diffus. Donc on se trouve dans une situation d'inquiétude généralisée qui est extrêmement négative face à cette dégradation de l'eau. Et pour nos scientifiques, l'attribution de responsabilité, bien entendu, c'est pas eux. Ils rejettent la responsabilité sur les institutions et le système. Ce sont donc eux n'y sont pour rien. Ils font de la bonne surveillance et le système ne fonctionne pas. Cette représentation, elle se construit, quel que soit le pays, en fonction de quatre dimensions. Une dimension temporelle. Les gens, lorsqu'ils parlent de cette dégradation de l'eau, c'est une génération, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dans mon enfance, on pouvait faire cela. Et c'est donc l'impression que cette dégradation, elle a une cinquantaine d'années, peut-être pas beaucoup plus. Ensuite, c'est une dimension spatiale, puisqu'il y a toujours focalisation sur les eaux connues. C'est une dimension institutionnelle, avec cette évaluation du système qui est extrêmement critiquée, quel que soit à peu près le pays. On va vous dire, écoutez, on a des institutions qui ne s'intéressent pas. Et ce que l'on voudrait beaucoup, nous, c'est une possibilité de contrôle. Et puis la dimension culturelle, niveau d'instruction, habitude de vie, type de société. C'est-à-dire que qu'est-ce que je cherche à dire avec cet ensemble de vidéos ? C'est nous avons tous un petit peu la même représentation de l'eau. Cette représentation de l'eau, elle est modulée par les quatre grandes dimensions qu'on a décrites. Et alors, quelle est donc... On va en tirer des profils d'attitude. À partir de ça, on a tiré 6 profils d'attitude. Donc, on a comme profil d'attitude, on a croisé les pratiques personnelles décrites et les diagnostics qui ont été faits. Je vous ai parlé de ces diagnostics. On croise les deux. Et donc, on a le premier profil qui fait comme diagnostic les problèmes sont clairs et urgents. Il est dans une pratique de discours et défilé. Et bien entendu, il veut économiser l'eau, la réutiliser. Mais surtout, c'est un militant et il fait du prosélytisme chaque fois qu'il le peut. Mon exemple était là, quelqu'un de Saint-Pardoux à côté de Limoges, qui disait le lac de Saint-Pardoux, grâce aux scories des usines, des carrières d'uranium qui ont été laissées complètement sur le bord de la route, ont pollué gravement toute la région et toutes les eaux alentour. Et maintenant, j'emmène mes enfants, je suis professeure de voile, et j'ai quitté le lac de Saint-Pardoux, j'emmène mes enfants, les enfants qui veulent faire de la voile à 30 km de là, parce qu'ils revenaient avec des allergies sur les doigts, etc., qui étaient typiquement des allergies liées, etc. Là, on a donc un cas où lui, il était non seulement, il était carrément violent sur le sujet. Mais là, l'exemple était tout à fait particulier. On a un second profil, donc ça, c'est, disons, l'excessif. L'excessif, ou bien celui qui dit j'ai du radon dans mon robinet. Vous savez, il y en a aussi qui vous disent j'ouvre mon robinet et il y a du radon qui sort. Donc voilà. Le second profil, les problèmes sont clairs et urgents, mais moi je suis respectueux de l'environnement. Je suis plutôt parcimonieux et on trouve ce genre de profil plutôt chez des ruraux. Et j'avais vu une jeune femme, toujours dans la région de Limoges, qui me disait, mais je fais bien sûr je lave mes légumes et après ça, je vais me resservir de l'eau pour arroser mes plantes. Et elle disait, mais c'est une évidence, c'est tout à fait normal de faire ça. Elle ne comprenait pas qu'il y ait des gens qui puissent jeter l'eau. Et le cas le plus spectaculaire, c'est celui de Ouagadougou, où une des personnes interviewées nous disait, mais moi, quand l'eau est sale, je la jette dans la rue. Et alors là, on est bien tranquille, on va avoir des moustiques porteurs de toutes sortes de maladies. Donc la notion de cycle de l'eau faisait que cette personne, l'absence de notion de cycle de l'eau, faisait que c'est dans les régions les plus sèches où l'eau devrait être la plus protégée que cette attention n'était pas donnée parce qu'il y avait une ignorance fondamentale. Alors, on continue mes petits profils. Donc, le profil numéro 3, c'est la personne qui fait le pari de Pascal. Elle pense, son diagnostic, c'est les problèmes sont probables. On nous en parle, on sait, bon, enfin, c'est probable. Et étant donné la situation, il vaut beaucoup mieux que je fasse le pari d'économiser l'eau plutôt que de continuer à ne pas l'économiser. On ne sait jamais. Et ce sont les gens qui font davantage de contrôle de la consommation d'eau. Le quatrième profil, c'est celui qui partage avec les futures générations, qui a vraiment un intérêt pour le développement durable et qui se situe dans une démarche complètement d'éthique. C'est bientôt fini, hein, après ça va passer. Alors, effectivement, on a, avec le même diagnostic de problème probable, le profil numéro 5 qui fait du gaspillage de l'eau qui n'est pas concerné. Et là, j'ai un exemple absolument charmant. Les femmes de Munich me disaient, on a mis des économiseurs d'eau sur toutes nos machines, mais quand je prends mon bain, je laisse couler l'eau. Ce n'est pas la peine, je ne vais pas m'amuser à ne pas laisser couler carrément l'eau pendant que je prends mon bain, ce n'est pas pensable. Voilà, pour moi, c'est trop important. Alors, elles ont quand même un sentiment de culpabilité avec un petit malaise. Et on a le dernier qui, comme vous voyez, retourne là où il veut et va faire et se dit, je diagnostique, je n'ai même pas d'opinion. Je refuse d'y réfléchir et ce n'est pas mon problème. Bien entendu, ce qui nous a préoccupés, c'est quel est le pourcentage d'indifférents par rapport à notre pourcentage de militants. La construction même de notre échantillon ne permettait pas vraiment de savoir comment on pouvait évaluer sur une population globale des choses de ce genre-là, puisqu'on a travaillé sur des échantillons réduits d'une cinquantaine de personnes dans chaque pays, pas plus. Et donc, l'étude était une étude exploratoire. Elle a été reprise
à Rio de Janeiro par des gens qui travaillent dessus. J'attendrai les résultats dans pas tellement longtemps parce que ils ont effectivement repris tout notre questionnaire, ils l'ont un peu transformé, adapté à la culture locale, et donc on va avoir une étude beaucoup plus importante parce que là ils ont mis des moyens pour faire au moins un travail plus statistique. Là, c'est pas, on ne peut pas parler de travail statistique, si vous voulez. Et on arrive au bout de cette étude à se poser les questionnements, comment concilier un même message face à la diversité des cultures, comment adapter les messages de l'eau à une articulation complexe entre le local, le régional et le global, comment la communication sur l'eau peut-elle contribuer à mieux informer et impliquer les usagers. Et c'est là que je reviens vers vous en parlant maintenant des messages. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a, pour une fois, vu un message qui l'a extrêmement frappé sur l'eau et qui a eu une influence sur son type de comportement? Quels sont les messages qui peuvent avoir des influences sur les types de comportement?
Amam Iman, c'est un proverbe tamatchek, Touareg, qui veut dire l'eau, c'est la vie.
Oui, mais ça, on sait.
Et on sait qui c'est. Peut-être qu'ils avaient ce proverbe bien avant, ah, ou bien sans avant. Savoir qu'il était ici. Et je me rappelle m'être fait engueuler par un Touareg un matin en allant chercher de l'eau. On était en mairie. Et il s'était arrêté le soir à un endroit en disant « Bon, là, ça va, on va pouvoir camper parce qu'on va, je vais trouver de l'eau. » Alors, il y avait que du sable, comme vous dites, il n'y a que du sable, mais non, il y avait de l'eau, il a gratté 50 cm et il a trouvé de l'eau pour qu'on se fasse manger le soir des pâtes, je crois. Et le lendemain matin, je dis bah, « Écoute, j'y vais, je sais où c'était à 50 mètres, j'y vais. » Et quand je suis revenu, il me dit « Mais tu l'as prise où ?» Je dis bah, « Je l'ai prise dans là où tu t'as gratté hier soir. » Il dit bah, « Non, non, surtout pas. » Faut pas la reprendre quand elle est restée. Peut-être qu'il y a un animal qui est venu pisser dedans, etc. Donc les critères d'hygiène, quand j'entendais tout à l'heure, ouais, ils ont pas les critères, ils ont pas de notion d'hygiène. Ils ont peut-être pas les mêmes que les nôtres, ou nous n'avons pas les mêmes que les leurs, parce que nous ne sommes peut-être pas la référence. Et je vous donne une autre chose. En Afrique de l'Ouest sahélienne, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils appellent de la bonne eau, c'est de l'eau dans lequel on peut voir à travers la bouteille de verre, par exemple, des petites bestioles, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie dedans. Et on est complètement à côté. Et on n'a pas de leçon à leur donner quand nous, on s'intéresse aux litres et demi d'eau qu'on boit, mais pas aux 4 000 litres ou 5 000 litres d'air qu'on respire tous les jours. Donc pourquoi on devrait s'intéresser autant à la qualité de l'eau sans qu'on passe autant on soit aussi attentif à la qualité de l'air? Et une autre chose que j'ai envie de dire aussi par rapport à des formules, nous, on n'a qu'un mot pour dire la neige. Bon, peut-être deux avec la poudreuse. Les Inuits en ont 16. Ils ont 16 mots différents pour qualifier différents types de neige. Et j'avais envie de vous demander, est-ce que dans vos études dans les 6 villes ailleurs, vous avez creusé sur le vocabulaire? Parce que...
C'est magnifique. Et ça ne veut jamais. C'est très sensible, ça. Mais bon. Pardon, on ne peut pas tout dire. Voilà. Qui d'autre a un message qui l'a beaucoup frappé?
Moi, j'en ai un. Vous en avez un? Mais qui est un message qui, avec le recul, est négatif. C'est de la publicité sur l'eau. Vous savez, la fameuse publicité où on voit les bébés.
Evian.
je trouve que c'est vraiment. C'est une publicité très bien faite. Oui. Hein, vraiment, le film est remarquable. Bon, après, derrière, on en tire les conclusions qu'on veut. Mais si vous voulez un message qui marque. Non, parce que c'est une publicité pour de l'eau des viandes, de l'eau en bouteille. Quoi, hein. Et on voit des bébés qui nagent mais vraiment dans une piscine. Quoi. En gros, c'est ça. Et c'est un film très bien fait.
Moi, j'avais trouvé que la... Il y avait une pancarte marquée qui disait eau non potable. Je me disais, mais enfin, à quoi elle sert cette eau? C'est pas vrai. Vous savez, dans les jardins publics, quelquefois, eau non potable. Pour moi, c'était une révolution. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'eau et puis qu'elle ne serve à rien comme ça?
Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai comme message qui me vient à l'esprit, c'est que je prends les messages qui sont fournis par les agences de l'eau. Je pense à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, puisque c'est celle-là dont on dépend, nous, ici. Je prends ça comme des messages publicitaires qui sont hypocrites. Et ça me gêne beaucoup parce que, je considère qu'il s'agit de communication, alors que les vrais problèmes ne sont pas résolus et ne sont pas inscrits dans une évolution morale de la civilisation. C'est-à-dire qu'on continue aujourd'hui à tolérer qu'il y ait des dégradations de l'eau par les pollutions diffuses agricoles. Et les vrais problèmes, donc, ne sont pas pris par le sens du droit, de la loi. Mais pourtant, nous avons de beaux messages sur les actions des agences de l'eau pour reconquérir la qualité de l'eau.
C'est vrai que ça ressemble à de la pub.
Voilà. Et ça, ça
et pourtant,
me
ils
choque,
ont leur
ça
journal Confluence, là, qui est pas mal, qui est bien fait. Ils ont des journaux qui sont bien faits. Mais tout il est beau, tout il est gentil, dans le meilleur des mondes.
Je suis choqué par ce fait-là. Et pour moi, ce sont des messages, là. Ouais. Et c'est quelque chose qui me révolte, qui peut-être même suscite mon engagement militant.
Voilà. Mais oui, je pense. Et comment construire des bons messages? Parce que là, la vraie question, c'est comment peut-on y arriver? C'est pas du tout simple. Hein. C'est l'implication de l'usager, l'engagement et l'implication. Je vous en parlerai après.
Oui. À Poitiers, nous avons vu des affiches avec, je crois, un robinet et l'eau tombée sur un évier, mais ça représentait de l'argile craquelée. Donc je trouve que c'était assez parlant. Enfin, moi, je suis sensible déjà à la sécheresse, l'économie, tout ça. Mais je pense que pour les gens, voir... on voyait une goutte d'eau qui tombait du robinet et l'évier, c'était, je vous dis, de l'argile craquelée.
C'est plutôt de l'image.
À
alors.
Poitiers, il y a eu des affiches pour sensibiliser à l'eau. Je ne sais pas qui les a mises.
C'est la mairie.
C'est l'agglomération.
C'était au moment de la canicule.
Non. C'est pour les ans, c'est pour économiser l'eau.
Oui.
C'est pour inciter à...
Je trouve que c'est bien fait.
Voilà, et la population a d'ailleurs diminué de 30%.
Oui. Oui, apparemment, ça a été efficace.
Donc, on a tiré les conclusions de ces études, comme on le fait toujours. Et donc, on se dit qu'il faut effectivement faire des informations et des formations adaptées, parce que ça ne sert à rien de vouloir faire passer le même message à des gens qui sont si différents. Vous avez vu mes 6 profils d'attitude. Je les retrouve dans tous les pays. Ça ne sert absolument à rien d'aller voir le militant avec le même discours que l'indifférent. Et la chose la plus précieuse serait de prendre en compte les différences culturelles, impliquer les usagers et aussi mettre en évidence les résultats obtenus. Je trouve que très souvent, les administrations s'en sortent plutôt pas mal pour faire pas mal de travail. Et puis finalement, ils n'osent pas afficher leurs résultats, ils ne savent pas en parler, ils ne savent pas très bien communiquer là-dessus. Et moyennant quoi, on est un petit peu déprimé. Alors, on va aller beaucoup plus vite parce que je crains qu'il soit déjà tard, non? Si vous tenez le coup, ça peut... Ah oui. Jusqu'à 9h. Eau et aménagement du territoire, gestion intégrée de l'eau, inondation et tsunami. À ce moment-là, on est dans une autre démarche. Donc là, les préalables, si vous voulez travailler sur la gestion de l'eau, c'est à la fois savoir bien comprendre que vous êtes dans du technique et de l'émotionnel et que l'émotionnel reviendra toujours troubler la technique. On a vu l'affaire des bassines tout à l'heure. Moi, ça m'a immédiatement fait penser à ça. On ne peut pas supporter. Il y a quelque chose impact de l'histoire locale de l'eau, je vous en ai parlé. On ne peut pas faire de l'aménagement du territoire si on ne travaille pas sur l'histoire locale de l'eau. Les valeurs sont inscrites dans les aménagements et surtout insister sur la fragilité des consensus obtenus parce que on croit avoir obtenu un consensus à la fin d'une réunion de clés. Ça a l'air d'être assez bon et finalement, ça ne l'est pas. Donc moi, j'ai fait une étude,
je pensais en parler plus longuement, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. J'ai fait une étude sur les boues d'épuration. Il s'agissait de réunir 5 communes pour qu'elles acceptent l'implantation d'une station d'épuration sur un des territoires de l'une des communes. Et on a mis au point une méthode assez particulière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a apporté des morceaux de boue d'épuration, des sacs avec des boues d'épuration, qualités différentes, obtenues par des procédés différents. Moi, j'avais fait des questionnaires et j'avais forcé les gens à réfléchir sur ce que ça voulait dire que de créer une station d'épuration, etc., à partir des images qu'ils avaient de l'eau. J'avais été très frappée de voir que lorsqu'on parlait assainissement, les gens étaient pour, mais à partir du moment où on disait station d'épuration, les gens étaient contre. C'est-à-dire que l'assainissement, c'est un mot qui est sympathique. Quand vous dites station d'épuration, tout le monde se crée cette image mentale dont je vous parlais tout à l'heure. Dans sa tête, il a une image mentale de quelque chose de pourri. Alors, on a changé les mots et on a dit qu'avec les produits de l'épuration, on allait pouvoir, par exemple, faire des plaquettes de boue séchée qui pourraient brûler dans les établissements Lafarge, dégager suffisamment de chaleur pour être utilisables. Et donc, au lieu d'avoir des boues d'épuration, on a eu des produits d'épuration. Et à partir de ce moment-là, en ayant changé le vocabulaire, c'est-à-dire ayant changé l'image mentale qui était derrière, on a obtenu des résultats très intéressants. On a pu obtenir ce consensus. Et je dois dire qu'à la fin du processus, ça a duré quand même presque un an, à la fin des réunions, tous les gens des communes apportaient chacun de quoi dîner tous ensemble. Et alors, c'est quand même une région, c'était dans une région du côté de Privas, où il y a d'excellents vins, d'excellents fromages. Donc, l'atmosphère est devenue extrêmement conviviale et ils ont réussi leur implantation. Mais si vous voulez, on a bien été obligé de changer l'image qui était dans la tête des gens, passer réellement de la notion de boue, qui est une notion négative, à une notion de produit qui va rapporter de l'argent à la commune. Voilà. Et à ce moment-là, ça marche. Si on veut donc fragilité des consensus obtenus, parce que ce consensus, on l'a obtenu. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est résulté après? Je ne sais pas. Après un an, je ne sais plus. Je n'ai pas donné de suite après. Participation, donc il s'agit de créer de la confiance. Vous savez qu'en anglais, vous avez deux mots pour le mot confiance. Vous avez trust and confidence. Donc, lorsque vous parlez de confidence, généralement en anglais, ça veut dire votre métro va être à l'heure. Donc, vous avez normalement un métro est à l'heure, il arrive à telle heure. Et donc, c'est de la confiance brute. Et trust, c'est la confiance que vous allez avoir par rapport à vraiment, vous allez investir quelqu'un. Donc, créer de la confiance dans les clés, dans les organisations de sages, c'est la première des démarches qu'on devrait avoir. Et l'essentiel, c'est de réussir à faire des cheminements. Donc, nous avons fait des expériences avec l'Académie de l'eau, dont vous voyez le sigle là en bas. 13 cas choisis dans les territoires des 6 agences de l'eau, 10 cas de mise en place d'un SAGE et 3 cas d'organisation spécifique au territoire. Moi, j'ai travaillé spécialement sur le SAGE de l'ESCO. Et le SAGE, schéma d'aménagement de gestion de l'eau. Donc, ça date maintenant déjà de bien 10 ans. On essaye de les faire, on n'y arrive pas toujours. Et celui de l'ESCO était en très grosse difficulté. Parce que d'abord, le fleuve, c'est 250 km. Il y a et c'est un fleuve frontalier avec la Belgique. Les industriels belges n'ont rien trouvé de plus intéressant que de venir se mettre le plus près de la France possible pour rejeter leurs effluents dans l'ESCO côté français et pas côté belge, parce que ça coûte beaucoup moins cher et qu'on n'avait pas la même politique. Donc là, ça, c'était déjà sympa. Et puis, le fleuve était extrêmement pollué et on s'était détourné du fleuve.
un des maires que j'avais rencontré me disait, mais moi, dans mon enfance, il y avait des barges qui passaient sans arrêt sur le, avec des péniches, etc. Je passais mon temps à courir sur ces péniches et à vivre sur ces péniches. Et là, maintenant, c'était un fleuve un petit peu, il avait l'impression, un peu mort. Donc, il faisait une grosse réhabilitation. L'idée était de faire une grosse réhabilitation. Et c'est, les difficultés étaient extrêmement nombreuses. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, on a créé une grille de lecture en se demandant quel eau, quel territoire, quel caractère socio-économique. Donc, cette région du Pas-de-Calais, c'est pas forcément... C'est pas forcément très riche, c'est en pleine crise, etc. Quels sont les problèmes? Alors, la nature des problèmes, donc on en a parlé tout à l'heure, ce sont des problèmes d'étiage presque toujours et de partage de l'eau. À partir du moment où vous avez une installation de canoë-kayak qui ne peut plus faire tourner l'été ces gens, donc ils ne sont pas contents. Depuis combien de temps les problèmes étaient là, etc. Donc, là, je vais passer... Et là, c'est un nouveau thème, c'est l'eau comme principe d'organisation sociale. Et on avait été, là on est allé au Maroc, et on est à Fès, et voilà les adductions d'eau, si on peut dire, la distribution, le système de distribution de l'eau, qui date du 9e siècle et qu'on nous a fait visiter. Alors, vous voyez là, le plus grand trou, c'est pour le roi. Après ça, on peut l'enlever. Quand on a fini de servir le roi, on va servir toutes les religieux, avec les écoles religieuses. Et ça, c'est ce qui reste pour la population. Et donc, l'eau, dans sa façon d'être gérée, elle reflète typiquement... Alors ça, c'est le 9e siècle, là, donc... Ils ont peut-être fait des progrès depuis, mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à Fès, cette circulation d'eau existe dans la Médina toujours, et vous avez un puits dans chaque maison. Autrefois, chacune de ces maisons était habitée par une famille. Compte tenu de la démographie galopante, il y en a maintenant 4 ou 6. Et alors, l'eau arrive dans ces puits, elle est tout le temps fraîche, elle circule. Et les gens arrivent et se servent de l'eau. Mais ils sont en train de l'assécher complètement compte tenu de la multiplication des familles qui habitent là maintenant. Donc, organisation sociale. Alors, j'avais arrivé sur mon thème préféré, enfin, les risques naturels liés à l'eau. Et à ce moment-là, j'ai 4 exemples à vous donner. L'inondation de Paris 1910, dont vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler, mais que je vais vous présenter d'une façon un petit peu différente. Ceci, c'est une carte postale qui nous permet de voir la rue du Chevaleret. Donc, c'est une rue qui existe encore à Paris. Et on voit que cette rue est inondée, que les personnes sont sur des petits morceaux de bois, que, vous voyez, celui-là, on a quand même à peu près, pas tout à fait au genou. Le chariot a du mal à passer, etc. Donc, le souvenir n'est pas loin de ces inondations. Et lorsque nous avons proposé une carte à nos interviewés, on leur a demandé comment est-ce que eux, ils percevaient l'inondation. Alors, vous voyez que percevoir l'inondation sur une carte, c'est tout à fait... la rue Chevaleret est dans le 13e arrondissement. Et elle est juste derrière, là, dans ce quartier-là. Vous avez des gens qui vont, sur la carte, vous faire un dessin géométrique. Et l'inondation s'arrête aux 2 boulevards. C'est le numéro 1, vous voyez en haut. Et donc là, vous avez vraiment la façon dont les gens perçoivent cette inondation. Ils la perçoivent en fonction du quadrillage des rues, et c'est une forme géométrique. Vous avez celui qui va être dans le déni de l'inondation. Vous savez que dans ce quartier, là, on est au pied de la grande bibliothèque Mitterrand, qui a été construite en quartier inondable et dont les sous-sols sont forcément inondés, puisque l'eau, personne ne l'a jamais arrêtée. Et là, la personne me dit, « Oh ben, écoutez, c'est pas très grave. Si je devais dessiner la trace de l'inondation, et ben voilà, c'est à peu près une patatoïde de ce genre. »
Bien sûr, on touche l'eau. Bien sûr, il y a tous ces petits réseaux de rues, mais c'est vraiment pas du tout grave. Donc, on est là dans le déni. J'avais fait une autre étude à Montmorillon, où là, le notaire m'avait dit j'ai été inondée de façon épouvantable, j'étais obligée de déménager, etc. Après ça, on parle du PPR, et il dit, mais non, la région n'est pas vraiment inondable. Donc il avait vraiment, vous voyez ce conflit intellectuel qui existe dans la tête des gens et que vous pouvez mettre en lumière à partir d'une réflexion sur une carte. Je vais vous montrer d'autres exemples après. Alors le troisième, alors lui c'est l'anecdote. J'étais chez ma grand-mère, j'ai vu de la pluie là, j'ai vu de l'inondation là, j'ai vu de l'inondation là, j'ai vu de l'inondation là. Et alors là, on est parti dans du récit. Du récit d'histoire familiale très souvent, et on ne va pas non plus arriver à avoir une vraie représentation objective d'une inondation connue dont on a quand même des images et impossibilité d'arriver à définir cette inondation autrement que dans ces cartes. Le risque d'inondation vu par les résidents. Ah oui, alors là, c'est amusant parce que les haies ont sauté. C'est très intéressant. Bon, donc Gisors, vous voyez où c'est en bord de Seine, c'est dans cette région parisienne. On a fait une petite étude rapide. Et pour les gens, lorsque l'on parle du risque d'inondation à Gisors, est-ce que c'est important? Alors, c'est très important pour 29%, donc presque un tiers, et assez important, c'est-à-dire qu'à 90%, à Gisors, les gens pensent que le risque d'inondation existe et qu'il est plutôt important qu'il existe. Mais si vous les remettez sur leur propre résidence et que vous allez leur dire est-ce que le risque d'inondation chez vous est important, vous voyez descendre les taux très rapidement, c'est-à-dire qu'il est très important seulement à 18%, on a perdu 10 points, il est assez important à 53%, on en a perdu un peu moins, mais en fait on a quand même une classification peu importante qui est aussi de 29%, c'est-à-dire qu'un tiers change d'idée sur le risque d'inondation. Et donc, voilà ce type d'étude qui vous permet de voir à quel point, il faut bien se méfier de ce qu'on vous dit, si vous voulez, et à quel point nous avons tendance à nier le risque d'inondation quand on le rencontre. Bon, alors ça, c'était d'autres choses. J'avais parlé de la tempête Xynthia. Donc, nous avons fait, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a travaillé sur les représentations de l'eau et on cherchait plutôt les éléments de mémoire. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est aussi la notion de représentation. Donc, voilà une carte qui a été dessinée au 18e, 19e. Elle est... C'est un style connu. Cette carte, vous voyez par exemple Fouras est là. Alors ça reprend les éléments de cartographie de l'époque romaine. Donc ça n'est pas, c'est Charon, la petite ville de Charon, la bourgade de Charon. Vous connaissez Charon? Voilà, moi aussi. Donc Charon à l'époque, c'est trois îles. Niort, vous connaissez, vous avez gagné sur la mer et vous avez prise de mer indéfiniment. Merci. Allons-y. Donc, à Charon, qui savait que la terre n'avait jamais, que la terre était récente et qu'en fait, autrefois, c'était des îles. On peut dire, le souvenir s'en est perdu, même s'il y a de très beaux vestiges romains qu'on peut voir dans les champs. Il y a un monsieur mémoire absolument extraordinaire qui a trouvé des poteries romaines et qui vous emmène dans les champs visiter les implantations romaines. Donc tout le monde savait à Charon, mais tout le monde savait encore plus. En 1944, vous vous rappelez la guerre de 40 que nous avons vécue, en 1944, les Allemands ont investi Charon. Ils se sont installés à Charon et la commune leur a dit, bon, écoutez, installez-vous au-delà de la rue de la Laisse. La rue de la Laisse, c'est la rue de la Laisse des Crues. Tout le monde sait ce que c'est. C'est une rue qui fait... Et on a installé le campement des Allemands là. Il y a eu une magnifique inondation. Les chars et toute l'armée s'est retrouvée dans une boue, comme on peut en voir. Et ceux qui ont visité un petit peu la boue après les inondations de 2010 peuvent voir que c'est de la boue collante, bien, bien compacte. Et donc, tout le monde a beaucoup ri. Et à Charon, et les habitants de Charon considèrent que c'est leur plus haut fait de guerre. Nous, on a fait évacuer les Allemands, on s'est débarrassé des Allemands. Donc, deux choses très importantes qui font que tout le monde savait que le coin était quand même relativement inondable. Alors ça, c'est l'image de Charon. Le jour même de l'inondation, donc vous revoyez les trois îles. La mer a repris ce sont des photos qui ont été prises par la sécurité civile depuis leurs avions. Et le premier matin, le dimanche matin, voilà ce qui reste de Charon. Et alors on dit, mais comment est-ce que ça a été possible? Qui n'a pas donné l'alerte? Alors là, nous, vous savez, on fait des enquêtes, donc on aime bien ça. Donc on est allé voir les gens un petit peu partout, dans toutes les communes, puisque donc on travaillait à la fois sur Charon, sur Étré, je ne sais pas si vous voyez Étré, et sur La Rochelle. Et on a rencontré des gens qui nous ont dit, oui, je suis adjoint au maire, oui, j'ai reçu le message, mais je partais un week-end, par exemple. Oui, j'ai reçu le message, oui, j'ai fait passer un véhicule dans la rue, mais il n'y avait pas grand monde, donc je pense qu'ils ne l'ont pas entendu. Voilà. Et donc, alors que la préfecture s'est carrément mobilisée pour faire passer un message, elle l'a fait passer deux fois, elle a téléphoné, et on a tous les documents, elle a téléphoné à tous les maires pour leur dire « attention, il va y avoir », alors ils n'ont pas dit une inondation, mais une tempête, et c'est là qu'arrive encore notre affaire de représentation mentale, d'image dans la tête. Si vous dites tempête, vous pensez vent, et vous ne pensez pas inondation. Et donc les gens n'ont pas pris de précautions pour l'inondation, mais pour le vent. Et nous avons, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai quand même beaucoup circulé, nous avons un exemple qui est épouvantable dans ce genre d'idée. C'est passé avec le cyclone George lorsqu'il passe sur Haïti. Haïti et la République dominicaine. Il y a une alerte cyclone. Cyclone, c'est vent, c'est pas inondation. Les Haïtiens vont se réfugier dans des ravines, vous savez, ces espèces de collines un petit peu ravinées par l'érosion, effectivement, et ils vont chercher protection dans ces coins-là. Le cyclone George va rester sur l'île et il va y avoir énormément d'eau qui va tomber et ils vont avoir 600 personnes noyées. Dans l'île d'à côté, Cuba, juste à côté, le cyclone y arrive, mais là, ils ont une procédure qui fait que systématiquement, quand on donne une alerte, les gens ont chacun un rôle à tenir, une façon de faire, etc. Je ne dis pas que ce soit un modèle, parce que c'est un modèle extrêmement dur. Les militaires arrivent en armes pour vous faire mettre dans des camps de réfugiés ou vous faire évacuer ou des choses de ce genre-là. Mais effectivement, la notion de vent par rapport à la notion d'inondation a conduit à ce qui s'est passé dans les îles. Et en outre, cette tempête... C'est une photo qui est assez spéciale parce qu'elle a été prise la nuit par la propriétaire qui a réussi à se réfugier par ici. Et elle a deux maisons autour d'elle qui sont beaucoup plus hautes, où les gens sont simplement montés à l'étage. Elle n'a que cette maison et on a eu son récit dans à peu près toutes les vidéos qui ont été passées là-dessus. Elle a juste un petit vasistas qui n'avait pas été fermé dans la maison et par lequel l'eau s'est engouffrée, et ils ont eu juste la possibilité de se sortir de là avant et de regagner le bord, ils étaient presque noyés. Donc c'était très impressionnant d'entendre ce récit, de voir sa photo, parce qu'on l'avait rencontré. Mais ce que je veux dire par ces images, c'est qu'il n'y a pas eu de représentation mentale dans la tête des gens de cette inondation possible. Il y a eu une totale incompréhension des mesures préventives, puisqu'on n'était pas sur du vent, mais plutôt sur de l'inondation. Et du coup, on peut constater des ruptures durables du tissu social, parce que, par exemple, à Charon, on sait qu'il y a eu trois personnes qui ont fait du sauvetage spontané. Ils n'ont pas reçu d'aide des pompiers avant le lendemain matin parce qu'ils n'étaient pas dans le circuit. Ils n'ont eu que deux personnes bénévoles et les trois marins qui, eux, ont dit « Nous, on connaît la mer et on voit bien que ce qui va se passer, ça va pas être facile. » Et c'est comme ça qu'ils ont pris une voiture, donc les marins, et ils sont descendus dans le coin qui est le plus inondé, là, le coin des Allemands, là, auprès du monument aux morts. Et c'est là qu'ils se sont aperçus à quel point c'était grave. Et ils ont forcé les gens à sortir, ils les ont portés. Et effectivement, ça laisse des traces parce que les gens, ensuite, on leur a dit « bon, ben, votre maison est détruite, il faut la vendre ». Et on a notre personne mémoire dont on parlait tout à l'heure, qui est le seul qui a obtenu de rester dans sa maison. Et il est un petit peu sur une surélévation. Et alors, il est tout seul dans son quartier. Donc, on n'a plus de tissu social autour de lui. Il y a eu énormément d'autres choses de ce genre. Mais je vais vous donner les conclusions. Attendez, je vous fais un petit coup de Setúbal. Vous allez voir, c'est très amusant. Alors, effectivement, pour la mémoire... On en reparlera une autre fois parce que vous en avez assez et je vais vous raconter Setúbal. Non, ça va ? Bon. Donc, on a demandé quelles sont les priorités pour la mémoire collective. Et ce qui est très frappant, c'est que les gens ne veulent pas de commémoration. On n'a que 6%. Donc, on a monté un atelier. Hein. On n'a que 6% de gens. Et ça, l'étude-là, elle est plutôt statistique parce qu'elle a été passée par électronique. Et dans tous les services qu'on a pu joindre. Donc, commémoration 6%, un monument 2%. Vous savez qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour faire des monuments. Par contre, de la communication continue et une signalisation des impacts et de l'enseignement auprès des enfants. Donc, quand on croit que les gens ne sont pas des gens raisonnables et qu'ils ne comprennent pas l'importance des problèmes, eh bien, on se trompe parce que c'est sûr que faire des commémorations, c'est intéressant pendant... un certain temps, mettons pendant un an, mais qu'ensuite, c'est des choses qui vont tomber et que la communication et la signalisation des impacts... La signalisation des impacts, c'est donc créer des... on a un petit peu, nous, se poussé pour cette idée. Là où on a enlevé des maisons, laissé une ruine, de façon à ce qu'on sache que si on a enlevé des maisons, c'est pas pour rien, c'est parce que toutes les autres étaient ruinées. Voilà, donc faites signaliser vraiment de cette façon-là. Alors, c'est en cours de discussion. On a présenté notre travail à La Rochelle au mois de février. Et donc, on est en pour parler avec ça. Mais c'était une étude très intéressante. Alors, en conclusion, puisqu'il est carrément 9h. Ah, ben, je vous ai sauté Setúbal. Comment est-ce que c'est possible ? Ah. Voilà, Setúbal, c'est une histoire encore plus ravissante. Donc, c'est un programme européen auquel nous avons travaillé 2 ans, donc avec un peu mon équipe, et qui s'est terminé l'année dernière en novembre. Voilà la petite ville de Setúbal. Setúbal, c'est une ville qui est à côté de Lisbonne. C'est un port. Lisbonne, comme vous vous en souvenez, a été rasée par un tsunami. D'abord le séisme et ensuite un tsunami. Setúbal également. Donc tout le monde connaît à Setúbal le fait que le tsunami existe. C'est devenu un port. Je m'excuse, c'est en anglais parce que c'était présenté en anglais puisque on était dans les instances européennes. Le port est énorme, vous pouvez le voir. Il s'étend sur 12 kilomètres. Et là, le port de pêche est en pleine déconfiture. Parce que il n'y a plus de poissons et c'est un petit peu un petit peu ennuyeux. Et donc, l'idée est de changer l'image de la ville. Il s'agit d'en faire une ville touristique de façon à compenser les pertes de revenus pour la ville d'industrie. Et pour ce que vous voyez là, c'est la carte de la ville de Setúbal. Et c'est une carte quelconque. Et nous demandions à nos gens, comme j'avais fait pour les cartes de Paris, on leur demandait de dessiner la limite de l'inondation. Le plus gros boulevard est là, avec tous les commerces et tous les restaurants en dessous. Donc vous voyez comme les gens connaissent très bien le lieu où a été l'inondation du tsunami à l'époque en question. Et là, c'est la région du port où aucun des bâtiments n'est construit parasismique. Voilà. Tout ça, le capitaine du port nous a fait ses confidences. Il nous a même donné un très beau PowerPoint pour nous expliquer à quel point il se sentait dans une situation assez grave. Et alors, après ça, on demandait aux gens, alors en cas de tsunami, s'il y a une alerte de tsunami, qu'est-ce que vous allez faire ? Et alors, on a eu des réponses qui montrent bien cette distance qu'il y a entre la connaissance du risque et les comportements adaptés au risque. Alors, on a eu, eh bien, je prendrai mon vélo, je vais attendre le bus, je vais appeler un taxi et des choses de ce genre-là. Donc là, parce que cette zone industrielle, là, elle est quand même très, très importante et les gens doivent rentrer chez eux puisque la ville est là. Alors, les gens qui travaillaient dans ces industries, donc des ouvriers, nous disaient, oh bah, s'il y a un tsunami, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon vélo. Et voilà. Donc, aucune compréhension du phénomène, avec une sécurité civile absolument remarquable, qui est en train de faire un plan de sauvegarde pour la ville, parce qu'il s'est rendu compte un petit peu, grâce à cette étude, à quel point les gens étaient très loin de la compréhension voulue pour faire ça. Donc, j'espère que ça aussi, on aura au moins été utile à quelque chose. Alors, les bouts d'épuration, on ne va pas revenir dessus, je vous en ai parlé. On va faire la conclusion. Voilà, ce à quoi je voulais arriver, c'est voilà nous ce que nous pensons de la façon dont on peut changer les choses. On s'est plaint au début avec tous nos stéréotypes négatifs par rapport à l'eau. Eh bien, il faut savoir que la réalité est co-construite par le discours. Lorsque vous parlez, vous faites de la construction dans l'imaginaire des gens auxquels vous parlez. Il s'agit de positiver pour se focaliser sur les éléments positifs pour développer le changement. C'est ce que j'ai voulu faire en vous montrant ce mascaré qui est tellement beau et la façon dont aussi d'autres éléments de paysage sont intéressants. En même temps qu'on fait des questionnements, il faut mettre en œuvre le changement. Les histoires interagissent sur ceux qui les racontent. Quand vous racontez des histoires avec vos amis le soir, vous racontez des souvenirs positifs, eh bien, vous allez créer encore des images positives. Et anticipation, les images du futur influencent nos comportements présents. Et ça, c'est tout à fait vrai. Si vous pensez je pourrais penser que l'année prochaine, je ne travaillerai plus parce que je suis trop vieille, etc. Et moi, je me dis peut-être que j'aurai un autre contrat. Voilà. Donc là, je suis positive, si vous voulez. Et donc, je crois qu'il faut penser ce changement par rapport à l'eau à partir de cette liste de choses. Et est-ce qu'on peut encore demander s'il y a des gens qui pensent que les réseaux, quels sont les réseaux pour faire passer les messages ? Est-ce que quelqu'un a des idées sur la troisième question ?
On a 5 minutes.
Oui. Et sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir été si gentil de m'avoir écouté.
Merci.
Alors, les réseaux. Qui a une idée sur quels sont les bons réseaux ? Pas d'idée ?
Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure.
c'est pas une réponse, c'est une question sur le sujet. On l'a évoqué tout à l'heure, là, et puis là, ça paraît en filigrane. Je ne sais pas quels sont les bons réseaux, mais en ce moment, il y en a un. Hein, c'est la médiatisation extrême du système qui pousse à avoir des messages. Alors, ça va à l'envers de ce que vous dites, qui pousse à avoir des messages simples, rapides, caricaturaux et qui provoquent le passionnel. Hein, c'est ce qu'on avait dit, l'eau est rare, etc. L'émotionnel, pardon. Je suis dans les sciences dures, moi, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est les réseaux, c'est ce qui existe en ce moment. C'est un peu caricatural, ça peut provoquer des réactions positives. Hein. Je suis militant, donc on s'en sert aussi hein, parfois. Mais je trouve qu'à la longue, ça peut être contre-productif. Comment faire ? Voilà. Donc vous, sociologue, je vous renvoie la question. Comment faire pour justement avoir ce que vous avez cité tout à l'heure, avoir des messages un peu plus sophistiqués, un peu plus compliqué, plus adapté. Hein. Je crois qu'un seul message pour tous les cas de figure, c'est aberrant. Mais on est poussé par ça. Voilà. Donc, je vous renvoie la question.
Premièrement, vous commencez par étudier les représentations mentales des gens. Et comme ça, vous allez avoir un discours adapté. Ce n'est pas la peine de raconter d'autres choses. Le modèle de l'implication individuelle. Alors, le problème, c'est impliquer les individus. Donc, quand on parle de risque, il s'agit d'abord de voir si les gens considèrent que le risque est vital ou non vital. Ensuite, c'est un risque pour moi ou pour les autres. Et surtout, je peux le contrôler ou je ne peux pas le contrôler. À partir du moment où vous savez que vous ne pouvez pas contrôler un risque, vous allez le nier purement et simplement. Vous ne pouvez rien faire. Ça ne sert à rien. Et donc, donner aux usagers la possibilité d'exercer des contrôles, comme le faisait mon japonais avec ses études sur les petits poissons tous les matins, à ce moment-là, il contrôlait lui-même la qualité de l'eau. S'il sait qu'il peut la contrôler, ça va. Si on lui raconte des histoires sur toutes les qualités qu'il y a dans l'eau qu'on lui vend, vous disiez vous-même, ça a l'air d'être des pubs. Alors, c'est bien compliqué de croire aujourd'hui dans des publicités. Ce que je vous ai dit sur la co-construction, c'est une méthodologie qui est appliquée pour le changement en entreprise et qui fonctionne très bien. Donc on monte un séminaire, j'ai participé à plusieurs comme ça. Vous montez un séminaire, vous prenez les gens et vous leur dites « Racontez-moi quelque chose de positif sur votre entreprise. » Alors, il y en a qui disent « Ah, je ne vais jamais y arriver. » Mais au bout d'un moment, ils racontent une histoire, et une histoire dans laquelle, eux, ils sont impliqués. Et brusquement, ils vont devenir positifs par rapport à l'entreprise, ils vont trouver les points positifs. Tandis qu'en étant toujours dans ce dénigrement qui est très français, qui est notre façon de faire, on a élu un gouvernement il y a 4 mois, et il est déjà complètement en perte de vitesse, si j'ai bien compris. Donc, comment peut-on être aussi critique ? Faisons de la co-construction positive. Et là, le discours, la parole est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on vit dans la parole. Et un tel m'a dit, et est-ce que tu sais ce qu'on raconte, etc. Donc, on passe notre temps à faire de la construction mentale. Si on la faisait un petit peu positive, on pourrait peut-être y arriver. Je vous ai raconté mes bouts d'épuration. C'était un produit. Alors là, maintenant, ça y est, c'est positif. On y arrive. Voilà, c'est ma conclusion. Et encore une fois, je vous remercie.
Merci beaucoup. Voilà, bien écoutez, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et l'aventure continue demain après-midi sur le prix de l'eau. Encore un problème majeur.
Personne ne le connaît. Si vous... Ça dépend des départements. Ici, vous le connaissez ? Voilà.
On ne commence pas le débat. Venez demain.
Posez-lui des questions. Comment est-ce qu'on peut connaître vraiment ? Ben oui, bien sûr. Donc le prix de l'eau est la chose la mieux cachée du monde.